amis, voici nos informations en français.
Studio Tamani, il est 18h à Bamako, le journal avec Sylvie Fomba. Les États-Unis annoncent une aide financière aux pays du Sahel engagés dans la lutte contre les djihadistes, mais sans passer par les Nations Unies. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État américain devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Certains observateurs estiment que l'aide des États-Unis va permettre d'accélérer la mise en place de la force des pays du G5 Sahel. À travers ces financements bilatérales, estiment-ils, les Américains prouvent encore leur volonté de se désengager des opérations de maintien de paix de l'ONU. Le convoi du président de la Haute Cour de justice s'est tombé dans une embuscade ce matin entre Dia et Kira dans le cercle de Tenenku. Abdrahman Niang regagnait Bamako après une visite familiale dans la localité. Son fils et un des chauffeurs seraient blessés. Plus de 400 kilos de feuilles de cannabis ont été saisies par l'Office central des stupéfiants dans le cercle de Yanfolila suite à la découverte d'un champ clandestin. Auditeurs, bienvenue. Les États-Unis ont annoncé hier lundi une aide financière aux pays du Sahel engagés dans la lutte contre les djihadistes, mais sans passer par les Nations Unies comme l'espéraient notamment la France et le Mali. L'annonce a été faite dans un communiqué par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson devant le Conseil de sécurité de l'ONU à cette occasion.
Les États-Unis étaient réticents à contribuer au financement de la force conjointe du G5 Sahel, mais hier au Conseil de sécurité de l'ONU, Washington a annoncé une aide bilatérale conséquente de 30 milliards de francs CFA à cette opération militaire formée par le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Selon le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, ces fonds vont renforcer nos partenaires régionaux dans leur combat pour assurer la sécurité et la stabilité face aux groupes djihadistes, États islamiques et autres réseaux terroristes. Cependant, les Américains refusent que cet argent soit investi dans le circuit onusien. Paris et Bamako, qui souhaitaient obtenir l'aide logistique et financière de l'ONU, ont appelé les partenaires à jouer pleinement leur rôle en vue de la conférence des bailleurs du 14 décembre à Bruxelles. Les ministres des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian de la France et Abdoulaye Diop du Mali, ont aussi plaidé pour une aide multilatérale qui offrirait un appui opérationnel et logistique pérenne à la force conjointe. Pour sa première année d'opération, les besoins de la force du G5 sont estimés à plus de 250 milliards de francs CFA dans un rapport de l'ONU. Seulement 65 milliards de francs CFA avait été levé avant l'annonce de la contribution américaine.
Certains observateurs estiment que l'aide des États-Unis va permettre d'accélérer la mise en place de la force des pays du G5 Sahel. Pour Souleymane Drabo, éditorialiste, les Américains, à travers ces financements bilatéraux, prouvent encore leur volonté de se désengager des opérations de maintien de paix de l'ONU. Il est joint au téléphone par Assetou Kanté.
Les Américains ne communiquent pas beaucoup sur l'assistance bilatérale qu'ils apportent aux pays africains. Mais tous les pays savent que les États-Unis interviennent sur le plan bilatéral. Les États-Unis font déjà beaucoup d'assistance bilatérale, même au Mali, d'une manière très discrète. Donc je crois que c'est un argent supplémentaire qui va arriver sur ce chapitre-là pour faire de la formation, pour donner de l'équipement aux gens, des équipements de télécommunications, des gilets pare-balles, des équipements de ce genre. Le fait que le secrétaire d'État américain ait d'emblée annoncé qu'il y aurait 60 millions de contributions américaines, mais sous la forme d'une assistance bilatérale, signifie que les Américains ne vont pas s'associer à l'ONU pour aider le G5 Sahel. Je crois que c'est la philosophie générale du gouvernement de Trump de se désengager un peu des opérations de maintien de la paix de l'ONU.
Réagissez à ces informations sur la page Facebook des studios Tamani, sur son compte Twitter. Vos réactions sont également les bienvenues sur le répondeur au 75 84 11 11 ou au 75 84 12 12. Le convoi du président de la Haute Cour de justice est tombé dans une embuscade ce matin entre Dia et Kira dans le cercle de Tenenku. Abdrahman Niang regagnait Bamako après une visite familiale dans la localité. Son fils et un des chauffeurs seraient blessés, selon le préfet de Tenenku. Abdrahman Niang est sorti indemne de l'attaque et serait actuellement à Bamako. Makan Doumbia, préfet de Tenenku, joint par Sekou Gadjigo.
Pour ce qui est du président lui-même, bon, je crois qu'il y a plus de pertes que de mal. Ça va, Dieu merci. Le président est indemne. Et au moment où je suis en train de lui parler, le président serait à Bamako en famille. J'étais en compagnie de certains membres de sa famille. Et un enfant serait blessé. Mais selon les informations qui me sont parvenues, il y avait trois véhicules. Bon, un chauffeur a été blessé. Bon, le président est entouré de gardes du corps, ils ont riposté. Il y a un groupe d'intervention rapide actuellement à Ténéncou et ils ont vite intervenu et Marty aussi est venu vite et un hélico a même fait des pièces pour ça et le président est actuellement ramené à Bamako.
Procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses 17 co-accusés annoncés pour la fin de ce mois d'octobre par le ministre de la Justice. Les résultats des nouveaux tests ADN des corps des 21 Béret Rouges sont toujours attendus. Les avocats de la défense et ceux de la partie civile dénoncent la lenteur de la procédure. Au même moment, les détenus eux-mêmes ont décidé d'observer une grève de la faim à partir du 6 novembre pour protester contre leurs conditions de détention. Un champ de cannabis de 3 hectares a été découvert à Denso, Beleda, dans le sud de Yanfoli, la région de Sikasso. Les propriétaires du champ seraient le chef de village et son frère. Selon la direction de l'Office central des stupéfiants, au total 408 kilos de feuilles de cannabis et 20 kilos de graines de la plante ont été saisies. Les deux suspects ont été arrêtés et mis à la disposition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sikasso pour culture, détention et vente des produits stupéfiants. Colonel Adama Tunkara, directeur de l'Office central des stupéfiants, au micro de Marwa Gallo.
Cette découverte a été faite par le bureau des douanes qui se trouve à Yanfolila. C'est les douaniers sur place qui ont découvert ces champs de cannabis, qui ont remonté l'information à leur direction générale, qui nous a saisis dans le cadre de la bonne collaboration que nous avons avec les douanes. C'est ainsi que nous avons dépêché des éléments sur les lieux pour aller faire une reconnaissance et recouper les informations qui nous ont été données. Compte tenu de la configuration du terrain, ils n'ont pas pu faire une mesure exacte, mais ils ont estimé la superficie à 3 hectares. Nous sommes convaincus qu'ils en sont conscients et seulement ils sont attirés par le profit qu'ils réalisent en menant cette culture-là dans cette zone. De ce qui est ressorti de leurs auditions, c'est pas la première fois qu'ils cultivent le cannabis. C'est une activité qu'ils mènent depuis un certain temps parce qu'elle rapporte plus que les cultures vivrières.
Plus de 150 millions de francs CFA, c'est le montant de l'aide apportée par l'ambassade de France au Mali aux ONG, Première Urgence Internationale et Alliance pour la Convergence d'Action Durable. La cérémonie de signature a eu lieu ce matin. Selon les bénéficiaires, cette somme va permettre, entre autres, la réouverture de certaines écoles et l'électrification des centres de santé communautaire dans la région de Kidal. Hamzata Agdidi, coordonnateur de l'ONG Convergence d'Action Durable, au micro d'Amadoun Amamaïga.
Depuis mars 2012, la région et ses occupations et les services socio-sanitaires sont très insuffisants. La région aujourd'hui, en matière de santé, compte aujourd'hui 4 CCRF, dont un fonctionnel, 27 centres de santé, dont 8 fonctionnels, 27 postes de santé, dont 3 fonctionnels, et il n'y a pas d'hôpital régional au niveau de la région. Au niveau des écoles, quelques écoles de la ville de Kidal, Tessalit et Adjelok sont fonctionnels et sont tenus par des volontaires enseignants. Ce projet vient de la demande des autorités locales des secteurs de concentration nomade de Djarhi, Intechdeit, de la mairie de Souk, les centres d'animation pédagogique de Kidal et l'ONG ACAD. Il s'agit de rendre opérationnels des centres de santé, les CSCOM de Djarhi, les PSA d'Intechdeit et une école communautaire dans la localité d'Intechdeit. Ce projet s'inscrit à contribuer aux objectifs du gouvernement, ainsi dans les domaines sanitaires et éducatifs. L'activité se déroule sur une période de 6 à 9 mois.
Les élections des conseillers des cercles de région couplées avec les communales partielles se tiendront le 17 décembre prochain, mais à moins de 2 mois de ces scrutins, des voix s'élèvent pour exprimer des inquiétudes. La coordination des mouvements Lazawal, signataire des accords d'Alger et l'opposition dénoncent une décision unilatérale du gouvernement. Elles estiment aussi que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'élections crédibles. Une délégation de la FIFA est attendue demain à Bamako. Elle vient s'enquérir de la situation de crise qui prévaut au sein de la Fédération malienne de football. En guise de rappel, deux candidats se disputent la présence de la FEMAFOOT. Les détails, Maria Maïga.
La délégation sera composée de Mme Segbe Pritchett, responsable des associations membres des pays francophones de l'Afrique, et de Véron Mosongo Omba, directeur membre Afrique-Caraïbes. Selon la FIFA, le but de cette visite est d'entendre les parties prenantes afin de se faire sa propre opinion opinion de la situation. Les rencontres avec la délégation de la FIFA se feront à l'hôtel de l'Amitié. Les deux émissaires vont rencontrer demain successivement Segui Kanté, secrétaire général de la FEMAFOOT, et Lucier qui a notifié la délocalisation de l'Assemblée générale élective du 8 octobre dernier du gouvernorat à l'hôtel Olympe. Le lendemain jeudi 2 novembre, la mission va s'entretenir avec les deux candidats, Mamoutou Touré et Salah Ababi, accompagnés de trois personnes de leur choix. Une rencontre est prévue également avec le ministre des Sports Hussein Amion Guindo. La visite prendra fin par un tête-à-tête entre la mission et les deux tendances.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale, les comités de gestion des associations de santé communautaire ont débuté ce matin à Al-Moussarad une formation sur la gestion administrative des centres de santé. Cette session de deux jours permettra aux membres des comités de gestion des centres de santé des communes d'Al-Moussarad, Tarkint, Ersan et Tabankort de mieux gérer le travail des structures sanitaires. Cette initiative du centre de santé de Différents de Bourem a été financée par le CICR. Une rencontre de réflexion sur la suite du programme de développement social urbain du CEP de Koutiala s'est tenue ce matin dans la localité. Selon les organisateurs, la rencontre vise à faire le point des acquis du PDSU et fédérer les auteurs, les acteurs autour d'une véritable stratégie de développement du cercle. Une centaine de représentants d'organisations, la société civile, d'élus et des services techniques ont pris part à cette session financée par la coopération suisse. Le grand dialogue, votre émission débat de tous les soirs, c'est dans quelques petites minutes avec Aliou Sidibé. Bonsoir.
Bonsoir Fomba.
Vous abordez un sujet bien grave ce soir car vous allez parler de traite des personnes, n'est-ce pas?
Évidemment, donc cette traite des personnes est une pratique qui est interdite au Mali et malgré la ratification d'une convention depuis 2002, notre pays traîne encore les pas quant à la lutte contre ce phénomène. Alors nous allons nous poser la question si toutefois la traite des personnes ne prend pas de l'ampleur au Mali. Alors nous avons invité Alifa Habib Kone, qui est avocat à la cour, Oumou Kniaré est de l'AMDH et Idrissa Aklinine de Temet.
Bon débat, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.